Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bonjour à tous, bienvenue sur votre radio étudiante, c'est l'heure d'Univox, votre magazine hebdomadaire qui cette semaine fait étape à Amiens. Dans cette émission, on s'intéresse au programme Erasmus+, vous le connaissez, c'est le dispositif de mobilité européenne à destination des étudiants. Il y a quelques mois, le Parlement européen a voté oui pour le développer plus chez les apprentis, les étudiants post-bac hors de l'université. Deux invités répondront à nos questions aujourd'hui, Ernest Maragall, eurodéputé du groupe des Verts Alliance Libre Européenne et membre de la commission culture et éducation du Parlement européen. Il est à l'origine du rapport remis au Parlement à propos de ce programme, ce qui en fait sa modification. Et juste après, les idées reçues et l'utilité du programme Erasmus, pourquoi est-ce utile de partir à l'étranger? C'est avec Maximilien Vergniaud que nous l'évoquerons. Maximilien est chargé de mission au Centre Europe Direct Picardie, basé à Amiens.
Univox.
Justement, on vous a posé la question à vous, étudiants, ce que représente pour vous le programme Erasmus+. Vladimir et Thibault, deux étudiants en sciences politiques, nous ont répondu.
Ouais, c'est une excellente chose, puisque pouvoir partir à l'étranger, ça permet aussi de découvrir une autre culture, on apprend des autres, et c'est aussi un développement personnel en plus qu'un apport professionnel. Donc ça peut qu'apporter qu'un plus et une ouverture d'esprit pour chaque étudiant.
Tu as déjà fait un Erasmus, toi ?
Non, en revanche, je connais plein d'étudiants qui sont passés par Erasmus, étrangers, tout ça, donc avec qui j'ai pu vivre des bonnes expériences. Ne serait-ce que leur faire découvrir la ville, par exemple, c'est déjà intéressant. Et eux, ils jouent le jeu, puisqu'ils aiment bien sortir avec des locaux, entre guillemets, et se prêter au jeu de la découverte.
Je pense que c'est une très bonne initiative d'ouvrir à plus de personnes. Et puis, tout simplement parce que voyager, c'est toujours positif. Et puis aussi, ça renforce la coopération européenne, la coopération entre les États. Et ça permet une vraie citoyenneté européenne.
Univox.
Je suis avec Ernest Maragall, eurodéputé espagnol du groupe des Verts, Alliance Libre Européenne. Bonjour Ernest Maragall.
Bonjour.
Vous êtes rapporteur à la commission culture et éducation et de ce fait vous avez écrit un rapport à propos du programme Erasmus+. Le Parlement vient de voter ce mardi pour une résolution pour optimiser ce fameux programme de mobilité étudiante. Jusque-là, Erasmus était favorable aux étudiants universitaires, hein, surtout pour la plupart.
Surtout, pas uniquement, mais
voilà,
surtout. Oui.
Surtout, hein, est connu pour ça. Et désormais, il devrait être plus favorable aux étudiants d'autres formations, notamment les apprentis. Ernest Maragall, pourquoi ce programme, dès ses débuts, n'était pas déjà favorable aux apprentis et pourquoi on s'aperçoit seulement aujourd'hui d'un tel besoin ?
Peut-être parce que, d'un côté, nous avons l'énorme succès d'Erasmus. Donc, c'est un succès que tout le monde veut partager, non, en quelque sorte. Et on pense immédiatement à comment on pourrait profiter de la puissance et de l'évidente pénétration d'Erasmus dans tous les pays d'Europe pour là appliquer les mêmes critères, les mêmes principes, les mêmes méthodes qu'on dirait à des chambres, à des situations qui aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, expriment une urgence, une nécessité. Et bien, tout à fait évident, plus dans certains pays, mais on a des taux de désoccupation absolument intolérables. La chose, ce n'est pas de demander à Erasmus qui nous résout la situation de désoccupation de nos jeunes. Mais certainement, l'Erasmus peut être un très bon instrument si on l'adresse correctement à ces collectifs. Pas les collectifs des pas occupés, les collectifs des étudiants qui sont dans nos centres de formation professionnelle et qui sont en condition, sont en mesure de contacter d'une manière utile, d'une manière positive avec le monde du travail. Les conseils, donc, ce n'est pas strictement des apprentis. Ils seront des apprentis, mais ils sont, pour moi, on devrait partir de l'éducation, des étudiants. et donc les appuyer, leur donner les instruments linguistiques, socio-économiques, culturels. Il faut supprimer, briser les barrières et les mettre en situation d'en profiter.
Oui, oui. Et on rappelle aussi que malheureusement, c'est une triste réalité en Europe, le chômage des jeunes dans l'Union européenne qui est selon Eurostat de 22,1%. C'est un chiffre.
Le chômage des jeunes s'est bendé dans les moyens de l'Europe, mais c'est, en occasion de ces rapports, on a eu l'occasion de contraster, de comparer. On a eu des journées de workshops, des journées de travail partagées avec des régions de France, de toute l'Europe. Donc on a des exemples, en Allemagne, par exemple, dans la région de Baden-Württemberg. Là, ils ont
Land de Baden-Württemberg.
Land de Baden-Württemberg.
Voisin avec la région Alsace, au passage.
Voisin, exactement. Et ils sont presque zéro dans ces mêmes taux de chômage. Et de l'autre côté, en Espagne, en Andalousie ou en Catalogne, nous avons des taux de chômage des gens autour de 30-40%. Donc c'est ça qu'il faut tenir compte.
Pourquoi ces disparités, selon vous?
Non, ces disparités ont des raisons pas éducatives, ont des raisons économiques et sociales, ont des raisons fondées sur les genres de politique économique qu'on a gérées depuis les autres instances européennes. Pas l'Union européenne, parce que l'Union européenne n'a pas la compétence fiscale, n'a pas la compétence de définir une politique économique traditionnelle, positive, de croissance, mais la politique monétaire, la politique de la dette, la politique de l'austérité, la politique de l'obligation de maintenir les budgets nationaux, c'est ça qui a produit la crise depuis 2008, et c'est ce qui a produit, il y a aussi des responsabilités nationales, bien entendu, en Espagne, en Grèce, ou en Portugal, en Italie, d'autres pays, dans les pays de l'Est aussi.
Et la Grèce aussi. Hein.
Mais il y a une responsabilité européenne, et c'est aussi dans ce, genre, dans ce sens qu'il faut que l'Union européenne réagit et mette en œuvre les instruments qu'il a, comme le programme Erasmus.
Ernest Maragall, on marque une courte pause dans Univox, on revient après CDD de Miossec.
Univox.
Jusqu'à présent, tout va bien. Pour combien de temps? Je n'en sais rien. La seule chose qui est sûre, c'est que pour l'instant, on se maintient. Jusqu'à présent, tout va bien, touchons du bois, promenons le chien. Crois-tu qu'on sera repris demain? Ou feront-ils une croix sur nos peaux de chagrin? On n'a fait que valser, 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 en attendant le grand soir. Jusqu'à présent, tout va bien. Est-ce à cause du temps ou du destin? Comptons les jours, additionnons les nuits, faisons tout pour goûter notre ennui. Jusqu'à présent, tout va bien. À durée déterminée, on le sait bien. Va-t-on se faire balayer dans un mois, deux jours ou même demain? On n'a fait que danser, 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 danser sur le fil du rasoir. On n'a fait que tourner, 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 tourner sur le manège de la grande foire. Jusqu'à présent, tout va bien. Restons calmes, soyons sereins. De toute façon, de toute manière, on ne sait pas de quoi sera fait demain. On n'a fait que tourner, tourner, valser, valser, danser, danser, tourner, tourner sur le fil du rasoir. On n'a fait que danser, danser, valser, valser, tourner, valser.
jusqu'à présent tout va bien. Jusqu'à présent tout va bien. Jusqu'à présent tout va bien. Jusqu'à présent.
On revient aux apprentis. Une chose qui n'est pas dans le rapport que vous avez écrit à ce sujet, mais il y a un problème majeur. C'est certes les diplômes universitaires, les facultés, les licences, masters, sont équivalents dans les pays membres de l'UE, dans l'espace pédagogique européen. Mais en ce qui concerne les diplômes dits professionnels, comme en France le BTS, hein, le brevet de technicien supérieur, par exemple en Belgique, il n'existe pas et vaut presque rien. C'est-à-dire, il y a ce problème. Est-ce que l'Europe va tenter de remédier, va demander vraiment une concordance générale des diplômes professionnels?
La diagnose est déjà faite et partagée. Tout le monde est conscient de ce que vous venez de dire. Mais la tâche de l'affronter, de le résoudre, c'est loin d'être accomplie. Il y a des instruments qui ont fait un parcours positif, mais ils sont encore absolument insuffisants pour créer. Il faut créer l'espace européen d'entrechage des mobilités professionnelles. Ça veut dire la reconnaissance de crédits académiques, mais ça veut dire aussi la reconnaissance des expériences professionnelles, peut-être pas formalisées, pas toujours formalisées. Et ça veut dire créer donc ce langage européen que tous les pays acceptent et que toutes les entreprises sont en train d'utiliser positivement.
D'où la création d'un statut d'apprenti européen.
Oui, parce que dans ces questions, il y a aussi une matière de droits, de protection des droits de ces étudiants, du point de vue des contrats contractuels, du point de vue laboral. Et du point de vue aussi des aides socio-économiques qui sont nécessaires pour que ce type d'étudiants, peut-être, ils ne sont pas dans la même situation économique familiale que beaucoup des étudiants universitaires. Donc il faut y ajouter quelque chose. Il faut créer un entourage positif, un entourage d'accompagnement, un entourage de tutorisation, on dirait. Et aussi, donc, cette idée de statut de l'apprenti.
Ernest Maragall, dernière question. Dans quelle mesure la mobilité des jeunes peut être une solution à la crise de l'emploi en Europe?
Ça, la solution ne veut dire pas seulement d'une très grande mobilité. C'est évident qu'il nous faut penser à une nouvelle politique économique. Il faut changer la politique économique de l'Union européenne. Il faut faire beaucoup de choses dans ces domaines-là, orienter à la vraie croissance, à la croissance intelligente, soutenible, on dirait. Mais c'est vrai que des instruments comme le programme Erasmus, orientés vers la mobilité, peuvent être un facteur très positif, un multiplicateur. Des possibilités de cette Union européenne dans la voie de croissance, de sortie de la crise. Oui.
Merci beaucoup Ernest Maragall. Je rappelle que vous êtes membre de la Commission Culture et Éducation au Parlement européen. Merci de nous avoir accordé cet entretien.
Merci à vous.
Univox.
Je suis avec Maximilien Vergniaud du Centre Europe Direct Picardie. Maximilien est chargé de mission à ce centre officiel d'information de l'Union Européenne. C'est ça, Maxime ?
C'est ça, bonjour.
Donc c'est le centre qui est officiel. Il y en a un petit peu dans chaque région, chargé d'informer les jeunes sur le fonctionnement de l'Union Européenne et sur ses procédés.
Exactement, il y en a une cinquantaine en France et on est plus de 500 à travers toute l'Union européenne.
On revient sur le programme Erasmus+. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, est-ce qu'on peut représenter ce programme d'étudiants à destination des étudiants? Parce que dans ce milieu, on le connaît, mais en même temps, on ne le connaît pas. Il y a des a priori.
Oui, alors le programme Erasmus+, c'est le programme pour la jeunesse par l'Union européenne. Ce programme Erasmus+, là, il a commencé en 2014, il va se terminer en 2020, et il regroupe plein de possibilités de partir pour les jeunes. Il est divisé en deux volets. Il y a un volet qui concerne plus les étudiants, donc pour partir faire ses études, pour partir faire un stage, et un deuxième volet pour les jeunes en général, quelle que soit leur qualification, leur niveau de diplôme, c'est le programme pour la jeunesse, c'est Jeunesse en Action, il s'appelle.
Parce que c'est très complet en fait, hein. Il n'y a pas uniquement, comme on a dit, les étudiants, il y a plein, c'est un sujet qui peut prendre des heures à expliquer.
Exactement, c'est vraiment pour tous les jeunes, quelle que soit leur situation, leur niveau d'études, niveau linguistique, etc.
On représente parce qu'effectivement l'Union Européenne, le Parlement plutôt, a voté au mois d'avril une résolution visant à favoriser ce programme aux étudiants issus de l'apprentissage des formations professionnelles et pas seulement à l'université.
C'est vrai, et c'est vrai que jusque-là, c'était, comme vous le disiez, plus les étudiants qui sont à la fac, qui en profitaient, ça existait déjà hein, pour les jeunes en formation professionnelle, mais c'était beaucoup moins connu.
Mais là, ça va être favorisé, en fait.
Ça va être favorisé, exactement, cette nouvelle proposition qui a été votée donc, par le Parlement européen.
Voilà, et qui a été, avec un rapport qui a été écrit par Ernest Maragall, l'un des députés européens.
Exactement.
Une question qui revient souvent, enfin plutôt un a priori, est-ce que c'est réellement très cher de partir grâce à Erasmus+ ?
Non, pas du tout. Je dis souvent, quand j'interviens justement dans les classes de lycée professionnel, que vous partez aux frais de l'Europe. Il y a une bourse qui tombe sur votre compte en banque tous les mois d'à peu près 400 euros. Et c'est pas mal. En plus, en tant qu'étudiant étranger, une fois sur place, vous êtes prioritaire sur les chambres universitaires, donc c'est pas rien, ça vous évite tous les désagréments de chercher un logement sur place. Et par ailleurs, non seulement il y a la bourse Erasmus, mais quasiment chaque région française encourage aussi les jeunes de son territoire à partir via une bourse.
Les collectivités territoriales.
Exactement.
En plus des bourses du CROUS, forcément.
En bourse, exactement.
Et quels peuvent être les autres freins, les autres objets de démotivation envers, pour les jeunes ?
Moi, ce que je vois comme frein
surtout professionnel.
De la bouche des jeunes, en formation professionnelle, c'est « je ne parle pas la langue ». C'est pas grave de pas parler la langue, c'est pas le plus important. Avec le programme Erasmus+, il y a des cours de langue qui sont mis en place, notamment dans les écoles, dans les facs, etc. Donc pour avoir une mise à niveau très rapidement. Et deuxièmement, en étant dans le pays, ils vont progresser très rapidement. Même s'ils ont eu, par exemple, 10 ans d'anglais en classe, en étant dans le pays, en y habitant, en allant faire leurs courses, tout bêtement, hein, c'est tout simple, ils vont progresser de manière très rapide.
Il y a aussi une autre utilité, ouais, effectivement, de séjour linguistique, et puis il n'y a pas que l'anglais dans la vie.
Non, exactement.
Y en a encore d'autres de freins ? Surtout pour les filières professionnelles.
Surtout pour les filières professionnelles. Le frein, c'est sans doute aussi la méconnaissance, tout bêtement, du système Erasmus. Erasmus+, les jeunes ne le connaissent pas. Et ils se disent moi ma voie est toute tracée, j'étudie en France par exemple pour faire un métier bien précis, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller à l'étranger? Moi je leur dis oui. Pourquoi? Parce qu'ils apprendront de nouvelles façons de travailler, ils développeront de nouvelles compétences, et après ils pourront le ramener en France, et c'est un vrai plus là-dessus.
Surtout qu'il y a plein de facteurs qui obligent un petit peu à s'intéresser à ce que font les voisins, parce que dans certains domaines où on doit être à l'affût de chaque norme de sécurité, bah souvent elles sont prises en commun accord avec les autres pays européens. L'Europe, par exemple, c'est un exemple comme un autre.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
En tant que centre d'information officiel de l'Union européenne, Europe Direct Picardie et ceux des autres régions, quel est votre rôle dans la promotion de ce programme et l'accompagnement des jeunes, qu'ils soient universitaires ou de formation pro?
En tant que Centre Europe Direct Picardie, ici, nous, on présente toutes ces offres de mobilité à tous les jeunes. Donc, on parlait aux étudiants dès le départ, donc aux lycéens en filière générale, mais aussi aux lycéens en filière professionnelle. On leur présente le BABA, les rudiments, comment on part, à qui on doit s'adresser. La question d'argent qu'on évoquait tout à l'heure, c'est une question qui revient souvent. Donc, on répond à ces questions-là, à ces craintes-là, notamment, nous, grâce à une action on est soutenue par la région Hauts-de-France, là-dessus, qui s'appelle Jour d'Europe au lycée, et donc qui nous permet d'avoir accès très facilement à ces lycéens, hein, et de leur expliquer comment ça fonctionne.
Maximilien Vergniaud, on marque une courte pause dans Univox, on revient juste après Keep on Moving On de Andy Burrows.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
I had no idea I was holding you back or back. Looking in your eyes, I thought that everything was running. can't say there was anybody else I can't say. But I'll keep on moving on. Looking straight through me now, I guess you got me figured out alright. Looking in your eyes, I thought that there could never be a bitter end inside. I can't say there was anybody else I can't say.
Je suis encore avec Maximilien Vergniaud, chargé de mission au Centre Europe Direct Picardie. On était en train d'évoquer l'Europe, le rôle, entre autres, d'Europe Direct Picardie dans la promotion et le développement du programme Erasmus. Comment ça se passe de partir, pour partir, Maximilien ?
Alors, comment on part en Erasmus ? Déjà, ça passe par l'école dans laquelle on est, ou le lycée, ou la fac pour les étudiants. Il y a toujours au moins une personne ou un service qui s'occupe des relations internationales et qui va vous aider à monter votre dossier. Donc vous n'êtes jamais tout seul là-dessus pour le construire. Après, les écoles, les lycées, ils ont des liens très souvent avec les structures, les autres lycées.
Un partenariat.
Voilà, un lien de partenariat.
Un jumelage aussi.
En gros, c'est ça, ouais. Voilà, vous allez partir donc dans cette école avec laquelle votre école française a un partenariat. C'est vous monter votre dossier de demande de bourse Erasmus avec votre école, avec la personne donc en charge des relations internationales. Votre dossier ensuite, il doit être traité. Puis, enfin, il n'y a aucune raison qu'il soit pas validé. Hein.
C'est beaucoup d'administratif en fait. Hein. C'est un des freins aussi.
Oui, c'est de l'administratif, mais de mémoire, les questions sont quand même relativement faciles. Il y a très peu de papiers à fournir, on est quand même au sein de l'Union Européenne, donc on peut voyager très librement, on n'a pas de visa à aller chercher, donc au final c'est quand même assez rapide.
Vous-même Maximilien, vous avez fait un Erasmus justement ? Ouais.
Non, moi j'ai failli faire un Erasmus, mais je suis quand même parti à l'étranger. Moi j'ai fait de l'assistanat de langue au Royaume-Uni pendant un an, je travaillais en tant qu'assistant de français dans un collège-lycée.
D'accord, mais c'est, voilà, c'est un des aux frais de l'Europe.
Non, pas du tout.
Je couperai. Ernest Maragall, notre invité tout à l'heure dans notre émission, parlait d'Erasmus+, comme un des potentiels moyens de sortir de la crise, en tout cas pour les étudiants, parce que, en tout cas, ça serait un enrichissement professionnel.
Il a raison. Et là, il me vient en tête une étude de la Commission européenne qui est sortie il n'y a pas très très longtemps, qui disait qu'à CV égal entre un jeune qui est parti à l'étranger et un jeune qui est resté dans son pays, plus de 9 fois sur 10, c'est le jeune qui est parti qui est choisi par le patron, par le potentiel employeur. Donc rien que pour ça, ça favorise l'entrée sur le marché du travail. Nous, on accueillait récemment une jeune Espagnole dans notre centre. Elle est retournée chez elle en Espagne. On connaît la situation en Espagne actuellement, c'est plutôt la crise. Surtout pour les jeunes, il y a un taux de chômage très élevé.
Plus fort qu'en France.
Et beaucoup plus fort qu'en France. Elle a retrouvé du travail un mois après être rentrée.
Grâce à son expérience européenne.
Évidemment. Parce qu'elle a montré qu'elle a eu le courage de partir, de faire de nouvelles choses. Et en arrivant, en revenant chez elle en Espagne, elle a pu montrer tout ce qu'elle avait appris.
Est-ce qu'en France, justement, on est l'un des pays qui en bénéficie le plus ?
On est, oui, un des pays qui en bénéficie le plus, avec les Espagnols, les Allemands aussi, oui, on est... Mais par contre, nous, dans notre région, Picardie, on a quand même des jeunes qui sont un peu moins mobiles que dans le reste de la France, qui en profitent sans doute le moins. Autant pour les étudiants, il n'y a pas de souci, mais pour tous les autres jeunes qui pourraient bénéficier, par exemple, du service volontaire européen également... C'est pas encore tout à fait ça. On travaille là-dessus pour améliorer cette connaissance de ce programme.
C'est encore une histoire de méconnaissance, malheureusement. C'est exactement. De la communication, en fait, le remède.
Exactement, exactement. Il faut en parler aux jeunes et aussi à leurs parents qui aussi peuvent avoir quelques peurs, aux professeurs, aux personnels enseignants aussi.
Dans les Hauts-de-France, c'est un peu le même constat ou parce qu'avec la réforme ?
Oui, évidemment, c'est en gros le nord de la France.
On n'est pas très mobile.
Non, moins que d'autres régions.
Lesquelles, par exemple ?
Je sais que les Bretons sont plutôt mobiles. Moi, je viens du Poitou-Charente. Je sais que c'est pas un souci de partir, et pourtant, c'est aussi une région rurale. Mais
il y a une assez curieux.
Oui, et il y a une mentalité que un peu plus ouverte, oui, je dirais.
À votre avis, du coup, est-ce que, mis à part la communication, quels seraient justement les moyens qui permettraient de faciliter le départ des jeunes issus de formations professionnelles vers un Erasmus+.
Les témoignages de jeunes qui sont déjà partis, ça marchera à tous les coups. Leur montrer qu'ils ont franchi le pas, qu'ils ont eu le courage de le faire, que la langue, ok, peut-être, ils ont galéré au départ, mais... Est-ce que c'est grave ? Non, on a tous des smartphones, on a tous des mains pour parler avec les mains. Donc là-dessus, voilà, on doit chasser les peurs. Ces peurs-là de non-compréhension de l'autre, ça va arriver très facilement. Et puis la plupart des jeunes, quasiment tous ceux que je connais qui sont partis et qui sont revenus, ne demandaient qu'à rester au final.
Pour travailler dans le pays dans
lequel... Exactement, exactement.
Est-ce que c'est possible dans n'importe quel domaine ?
Oui.
D'accord.
Oui, oui, c'est possible dans n'importe quel domaine. On peut faire un apprentissage, voilà, bénéficier d'un dernier Erasmus professionnel, vraiment dans tous les corps de métier. Hein, faut rien s'interdire, tout voilà. Est possible.
Et vous avez déjà eu des témoignages de jeunes Picards qui sont partis grâce à vous, hein, dans un pays étranger, des bons témoignages, des pourtours.
Grâce à nous, je ne sais pas, mais oui, moi...
Indirectement,
par l'Europe, par l'Union, grâce à l'Union Européenne, on va dire. Oui, j'ai souvenir, là, par exemple, j'ai rencontré des jeunes qui sont en maison familiale et rurale, en MFR, et qui ont bénéficié d'un séjour, c'était pas très longtemps, c'était 3 semaines en Irlande, ils étaient dans une exploitation agricole, ils en sont revenus enchantés, alors qu'au départ... Ils avaient peur, ils avaient plutôt peur, et ils ont appris une nouvelle technique, on leur a fait confiance sur place, même si la communication au départ s'est pas fait très facilement.
Bah, c'est comme tout, hein.
Ben, exactement, voilà, ça s'est fait, bien fait, ils étaient enchantés, ils ont été très contents d'avoir pu franchir le pas.
D'accord. Merci beaucoup Maximilien Vergniaud d'avoir été avec nous, chargé de mission au Centre Europe Direct Picardie. On vous rappelle que vous retrouvez ce genre de Centre Europe Direct dans chacune des régions françaises.
Exactement, il y en a même plusieurs par région.
Et dans chaque pays européen d'ailleurs.
Et dans chaque pays, dans les 28, il y aura un Europe Direct près de chez vous, donc il faut aller passer la porte. On a plein de choses à vous raconter sur l'Europe, c'est pas que du négatif, l'Europe c'est aussi ça, c'est aussi le programme Erasmus, c'est les échanges, il faut en profiter.
Maximilien Vergniaud, merci d'avoir été avec nous. Je le rappelle, si vous souhaitez partir en Erasmus, n'hésitez pas à vous rapprocher du Centre Europe Direct le plus proche de chez vous, il y en a dans chaque région. C'est la fin d'Univox, merci à tous de nous avoir écoutés, à très bientôt sur votre radio. Univox.